moins dans le psaume 71, les versets 18 et 19. Psaume 71, versets 18 et 19. Aussi, jusque dans la vieillesse, aux cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, afin que j'annonce ta force à cette génération, ta puissance à tous ceux qui viendront. Et ta justice, ô Dieu, atteint les sommets, car tu as accompli de grandes choses. Dieu, qui est semblable à toi ? Amen. En lisant ce texte, ce qui m'a semblé ressortir, c'est la responsabilité que nous avons de transmettre un héritage. Alors, combien est important pour nous de transmettre l'héritage spirituel que Dieu nous a donné ? Alors, c'est clair qu'on ne peut pas laisser en héritage notre salut. C'est personnel. La parole de Dieu nous dit que chacun d'entre nous, nous sommes amenés à prendre une décision. Et la décision, elle nous concerne de manière personnelle. Mais nous avons des choses à transmettre. D'ailleurs, le psalmiste dira, « Seigneur, je vais annoncer ta force à cette génération. » Besoin de passer le flambeau, de communiquer la foi, communiquer ce qui avait été vécu. Or, sur le plan matériel, vous avez déjà certainement suivi un peu les débats qu'il y a à droite à gauche. Dans le monde actuel, un des sujets qui touche notre société, c'est celle de l'héritage. N'est-ce pas ? Alors, transmettre l'héritage de son vivant, transmettre l'héritage après la mort, les points qui peuvent poser problème, les impôts. Première place. Deuxième, la répartition. Et troisième point aussi, c'est comment offrir un plus grand avantage aux héritiers, éviter que le patrimoine soit une source de conflit. Toutes ces questions se posent, mais elles se posent davantage dans le plan sur le plan spirituel, car nous consacrons du temps et des forces à grandir dans notre relation avec Dieu. Est-ce que c'est le cas ? Amen. Est-ce que vous passez du temps dans la présence du Seigneur ? J'entends pas des amen. Je suis sourd. Nous cherchons à nous enrichir des richesses spirituelles qui peuvent améliorer notre vie ainsi que celle de notre foyer. Dieu dira au peuple d'Israël, donnera cet ordre qui est celui de transmettre aux générations suivantes ce que Dieu avait fait pour eux. La manière où Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Il y avait un devoir de la mémoire. Combien de choses le Seigneur nous a déjà permis de vivre ? Est-ce que nous avons pris le temps de les partager à nos enfants ? Est-ce que, pas seulement à nos enfants, je dirais, de chair, mais aussi autour de nous, le témoignage que nous pouvons et nous devons rendre. Sur le plan, il est important pour nous et tout à fait normal que nous puissions se poser cette question ce matin, de dire qu'est-ce que je suis en train de transmettre aux générations suivantes. Première chose, on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas reçu. Êtes-vous d'accord ? Et très souvent, excusez-moi, mais on transmet ce qu'on a et ce qu'on a n'est pas forcément un bon héritage. Des fois, on apprend des histoires dans la famille, le grand-père ou l'arrière-grand-père, il a fait ceci, il a fait cela. Il n'y a pas de quoi être fier. Non ? Et on se dit ça, certainement, je n'en veux pas. Mais l'être humain est attaché à tout ce qui peut être et avoir une valeur matérielle. Je me rappelle d'un enterrement que j'ai dû faire en Franche-Comté, où je me suis retrouvé ce jour-là dans le pire des enterrements. Non pas pour l'homme qui venait de perdre sa vie, parce que lui, après des années d'errance spirituelle, deux jours avant sa mort, il a finalement donné son cœur au Seigneur, il a demandé pardon à Dieu, il a appelé ses enfants, il leur a demandé pardon pour toutes les choses qu'il leur avait fait endurer. Une réelle repentance. Son visage avait changé de couleur, croyez-moi. Et deux jours plus tard, le Seigneur l'a pris. Il était prêt. Il était prêt. Mais le combat restait dans la famille. L'ex-épouse, son épouse, les enfants du premier mariage, les enfants du deuxième mariage, ils étaient presque en train de se battre alors qu'ils étaient en train juste de descendre le cercueil dans la terre. Et je me rappelle que j'ai dû intervenir pour demander aux uns et aux autres de partir. J'ai dû prendre véritablement d'autorité et dire maintenant, Vous rentrez chez vous, vos discussions, vous les aurez avec le notaire. Quelle horreur! Quelle tristesse de voir qu'on puisse finalement se déchaîner, excusez-moi, pour un bout de tôle ou pour un mètre carré de terre, qui finalement, ni l'un ni l'autre vont nous suivre dans l'éternité. Vous êtes d'accord? N'est-ce pas? Alors, je me posais là cette question, je me disais, Seigneur, mais il ne faudrait pas quand même que nous perdions de notre temps dans, ici sur terre à ne pas faire ce qu'il faut. Et moi, je vous dis sincèrement, ma prière, mais je suis certain aussi la vôtre, et notre désir, c'est de voir les jeunes se donner à Jésus le plus tôt possible. Amen. Et de voir aussi qu'ils s'engagent et qu'ils puissent dès à présent rentrer dans les projets de Dieu pour eux. Ne faisons pas l'erreur de vouloir faire vivre à nos enfants les projets que nous n'avons pas pu réaliser. Combien de fois il est arrivé de rencontrer des personnes qui étaient en train de vivre et de voir accomplir le rêve de leurs parents. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions rentrer chacun de nous dans ce que Dieu a prévu d'avance pour nous. Combien sont grandes aussi nos désirs et notre volonté, nos prières qui évitent de vivre les souffrances que nous avons connues et voire même de faire les mêmes erreurs que nous. Hein, alors on leur explique, tu sais, voilà, regarde, sache que. Moi, je me suis rendu compte que ce que mes enfants y retiennent, ont plus retenu, c'était les bêtises que j'ai pu faire. Je ne sais pas si vous avez eu le même cas. Hein? Papa, t'as fait ceci, papa, je me rappelle. Et ils sortaient ça quand il fallait justifier une bêtise venant de leur part. Pour dire toi aussi, papa. Hein? Alors j'ai dit, écoute, puisque tu dis toi aussi, je vais adopter la même procédure qui a été adoptée pour moi. Ah non, papa, il faut faire preuve de grâce. Hein? Ils comprennent vite. Hein? Il ne faut pas leur expliquer longtemps ce genre de choses. Notre désir le plus grand, c'est qu'ils puissent racheter le temps et mener encore plus loin tout ce que le Seigneur nous a fait grâce de commencer ou continuer derrière ceux qui nous ont précédés. Lundi, à la pastorale, il y a un frère qui nous a partagé son parcours dans le ministère en disant, voilà, dans toutes les choses que j'ai pu vivre, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et en l'entendant parler, en l'entendant nous expliquer les cheminements par lesquels le Seigneur l'avait conduit, je vous dis sincèrement, ça m'a fait un bien fou. Et en même temps, je voyais les jeunes frères qui commencent dans le ministère être là, écouter, et les yeux écarquillés, et se dire, waouh, c'est quoi ces martiens ? Hein ? Parce que ce frère, il expliquait qu'au départ de la formation pastorale, ce n'était pas comme aujourd'hui. Tu allais sur le terrain et là, tu faisais tes preuves directes. C'était... Et aujourd'hui, certes, on met bien des filets de protection et tout pour que les jeunes puissent bien démarrer tranquillement avec un formateur et ceci et cela. Mais je me dis, est-ce que tout est bien ? Je ne sais pas, le temps nous le dira. Moi, ce que je crains surtout, c'est de dire, Seigneur, aide-nous à ne pas travailler en vain. Le psaume 127, versets 1 à 5, dira ceci, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et en vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Et il donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un héros. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il n'aura pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. » Dans ce texte, il nous parle de l'héritage qui sont les enfants. Alors, le but, c'est pas de faire pousser les murs des maisons et se dire qu'il faut avoir plein d'enfants. Parce que c'est pas si évident que ça et il y a plein de problématiques qui rentrent en ligne de compte. Mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir à la nécessité pour chacun d'entre nous de ne pas être un arbre stérile spirituellement. Vous connaissez ce qui s'est passé le jour où Jésus s'est approché d'un figuier. Il n'y avait rien, pas de fruits. Et vous connaissez aussi la souffrance de toutes ces personnes qui n'avaient pas d'enfants et qui criaient à Dieu. et Dieu a fait grâce. Je crois que dans la volonté du Seigneur, c'est que nous portions du fruit et du fruit qui demeure. Et nous avons tous la responsabilité, par notre témoignage, de permettre des nouvelles naissances en Jésus-Christ. Quel bonheur de voir quelqu'un s'engager par les eaux du baptême, n'est-ce pas ? Alors, je l'ai dit dimanche dernier, il y en a qui encore demandent et on continue de travailler avec sagesse parce que c'est important aussi de donner la formation qui va avec. La parole de Dieu dit « Allez, faites de toutes les nations, premièrement des disciples et après baptisez-les ». Il ne faut pas aller trop vite et on sait quelle est la responsabilité de quelqu'un qui s'engage par les eaux du baptême. Donc il ne faut pas y aller trop vite, mais il est important aussi quand même d'avancer parce que le temps est de plus en plus court. Je dirais que ce n'est pas au seuil de la mort qu'il faut penser à transmettre l'héritage spirituel, mais dès à présent. Si quelqu'un se posait la question de dire à titre posthume, je vais laisser mes mémoires. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un qui est en train d'écrire ses mémoires. Et il m'a mis dans son bouquin, il voulait que je corrige. J'ai dit, alors tu m'envoies le texte, je vais te le corriger. Et je ne vous dis pas la quantité de textes que j'ai enlevé. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas, ça, tu n'as pas besoin, ça, il n'y a pas besoin. Ça... Mais tu n'as rien laissé. J'ai dit, c'est très bien comme ça. Elle dit, oui, mais c'est pour que les gens lisent. Je dis, mais ça ne m'intéresse pas que les gens lisent. Parce que si les gens lisent, peuvent s'enliser aussi. Ce qui est important, c'est de regarder, de garder les yeux fixés sur Jésus. C'est lui le centre de notre vie. Et je ne veux pas attendre qu'on mette un mot sur la pierre tombale. Il a prêché l'évangile. Non. Je préfère que derrière, il y ait plein d'hommes et de femmes qui se sont levés, qui se sont donnés au Seigneur. C'est ça le plus bel héritage, n'est-ce pas ? De dire, Seigneur, merci parce que tu nous as fait grâce. Quand Dieu fera la promesse à Abraham d'être le père d'une nation, il ne disait pas, toi, ton fils, il va avoir 50 enfants, les 50 enfants, ils vont... Ce n'était pas ça le calcul de Dieu. Il parlait d'enfants spirituels. On peut malheureusement ici-bas, pour des problèmes physiques ou autres, ne pas pouvoir donner naissance à l'enfant, mais rien ne nous empêche de donner naissance spirituelle à des grands et des petits. Moi, je bénis le Seigneur pour ceux qui travaillent dans les gibes, pour l'œuvre qu'ils font parmi les enfants. Parce que parmi ces enfants, il y a des futurs pasteurs, des futurs évangélistes. Amen. Vous savez qu'il peut y avoir des enfants qui se lèvent très tôt pour servir le Seigneur. Un pasteur m'a raconté d'une visite qu'il avait dû faire en Afrique et ils l'ont ramené, il a fait une tournée missionnaire là-bas et ils l'ont ramené dans un coin perdu et on a fait plus de 2 heures de route en voiture. On arrive là, il y avait une petite hutte. Il dit, et devant la hutte, il y avait un petit puits et plein d'enfants qui arrivaient à pied. Il dit, les enfants, ils arrivaient, ils se lavaient parce que la marche était longue et en plus, la poussière et tout le reste. Et il dit, on est rentré dans cette petite hutte. Il n'y avait que des enfants. Le pasteur avait 14 ans. Et il dit, il y avait une telle onction de Dieu. Il dit, je suis tombé à genoux en train de pleurer devant le Seigneur. Et ce frère a une église de plus de 2000 membres. Il dit, j'ai rarement senti la présence de Dieu comme je l'ai senti dans cette petite hutte. Moi, j'aimerais que demain, il y ait des enfants qui se lèvent et qui commencent à annoncer l'évangile. Amen. Ce serait magnifique, ça, non ? Des enfants que là où ils sont à l'école ou dans leur quartier ou à leurs voisins, qu'ils annoncent l'évangile. Mais vous savez, ils ne peuvent pas annoncer ce qu'ils n'ont pas reçu. Et s'ils ne l'ont pas reçu, faute à qui ? À qui la responsabilité ? Alors, préparer la génération future comporte beaucoup de responsabilités, mais aussi d'amour, dans le témoignage que nous leur manifestons par notre vie, dans le temps et les forces et les efforts que nous leur consacrons, dans le partage et aussi l'accompagnement que nous leur apportons. Combien est important pour un enfant, pour un ado, un jeune, un adulte, d'avoir la possibilité de partager, de dire « j'ai un problème ». Moi, je me dis toujours, c'est toujours un honneur quand quelqu'un dit, voilà, est-ce que je peux vous partager mon problème ? Ça veut dire qu'il y a une confiance. Mais cette confiance, il faut la respecter. Cette confiance, il faut aussi savoir quelle est la limite, dans le sens que, attention, on ne se sert pas de la confiance pour se servir. Que Dieu nous garde d'utiliser les propos qui nous ont été apportés pour après, finalement, se donner des raisons à droite, à gauche. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous permet, finalement, d'être en soutien, puisque la véritable confession, c'est celle qu'un homme fait auprès de Dieu. C'est le seul qui ait l'autorité pour remettre nos péchés. Moi, en tant qu'homme, pécheur, comment je peux remettre les péchés à un autre pécheur? Non? Mais celui qui n'a commis aucun péché, lui, a toute autorité, puisque à la croix, il a accompli et payé le sacrifice qui lui permet finalement de pardonner tous ceux qui vont à lui. Alors j'aimerais nous inviter à nous appuyer sur la parole de Dieu afin d'éviter finalement de travailler en vain, de perdre cet héritage, de voir cet héritage partir dans le vide. Et le psaume 71 dit aussi, jusque dans la vieillesse aux cheveux blonds, ô Dieu, ne m'abandonne pas afin que j'annonce ta force à cette génération, ta puissance à ceux qui viendront. Et je tire l'attention sur les cheveux blancs. Ça veut dire que c'est pas question de dire je suis trop âgé pour donner un conseil. Moi, j'aime bien quand les enfants, voir les enfants aller vers les aînés et voir cette relation qui permet finalement un passage des idées, des pensées que parfois les parents même ne peuvent pas. Moi, je me rappelle de combien de fois j'étais en conflit avec mes parents et finalement mon grand-père venait me prendre par la main et il dit, viens, on va se balader. Alors je le regardais, je dis oui, bon, grand-père, il était grand. Hein. Et il me disait des choses les mêmes que mes parents, seulement il avait une manière de me le dire. Et ça passait. Et combien de fois il m'a partagé ses expériences. Combien de fois il m'a dit, tu sais, t'as une grâce, t'as tes parents. Il dit, moi, je ne les ai pas eus. Et déjà ça. Il dit, alors réjouis-toi, ta papa, ta maman, les grands-parents, ils sont là, on t'aime, mais il faut que tu arrives aussi à comprendre, c'est pour ton bien. C'est pour ton avenir. Et frères et sœurs, je crois que nous avons, chacun d'entre nous, à considérer l'importance. Le psaume 33 dira ceci, « Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Je me disais, Seigneur, nous, on touche un peu, un tout petit peu de tes plans. Les plans de Dieu ont commencé quand, dites-moi, à votre avis? Avant la création du monde. Dieu ne se lève pas le matin et dit, alors attends, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Un tel, je l'envoie à tel endroit, l'autre, ah, il faut les occuper. Hein. Non, le projet de Dieu était déjà bien établi et tout est bien clair. Et quoi que nous ayons pu faire dans notre vie, nous n'avons pas fait la totalité, ne prenons pas pour nous un mérite qui ne nous revient pas. Nous avons participé, nous avons été là pendant un temps. Moi, je me dis toujours, on marche sur les empreintes que les autres ont déjà posées avant nous. Faites l'expérience, n'importe où vous allez, dites-vous quelqu'un est passé avant vous. C'est une réalité. Et donc, je dois avoir du respect. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu montre bien qu'il y avait un respect du travail des autres. Quand quelqu'un venait et dans le temple, il faisait un certain travail, il devait nettoyer les choses, préparer. Ce qui a été consommé le jour d'avant, il n'était pas jeté comme ça, comme si ça n'avait aucune valeur. Il y avait une manière de le faire parce que c'était le respect du travail de celui qui t'avait précédé. Est-ce que nous avons du respect pour ceux qui nous ont précédés? Est-ce que nous avons du respect pour ceux que Dieu place sur notre chemin pour que nous puissions nous aussi rentrer ensemble dans cette transmission du vivant? Moi, je préfère transmettre maintenant. À titre posthume, je ne sais pas si je peux transmettre quelque chose. Hein ? Je suis venu nu, je repars tout nu. Donc, bon. Des fois, en rigolant, les enfants, « Papa, qu'est-ce que tu nous laisses ?» J'ai dit, « Écoute, je peux te laisser ma tasse, tu la laveras, parce que j'aurais pris un café jusqu'au bout. Hein ?» Alors, dans le projet de Dieu, chaque génération s'implique l'une à côté de l'autre. Actes chapitre 2, verset 17, il dira ceci, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et moi, je voudrais dire aux jeunes ce matin, et même aux enfants, vous avez toute votre place, et dans le culte, mais surtout dans l'Église. Et il n'est pas question de dire « Ah, t'es trop jeune ». Paul dira à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Il est important pour nous parce que c'est la décision de Dieu, c'est le projet de Dieu. Et il dira dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors que Dieu fasse que nos enfants soient vraiment remplis du Saint-Esprit. À l'image de ceux qui nous ont précédés, Pierre dira, lui, regardez cette image, elle est marquante. 1 Pierre chapitre 5 verset 13. L'élu qui est à Babylone vous salue de même que mon fils Marc. Alors, ce n'était pas son fils, mais c'était son fils spirituel. Nous avons d'autres textes. Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 1, versets 1 et 2. Apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime, en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Cette douceur, cet amour propre, ce désir de transmettre, de partager, de ne pas laisser ce que Dieu a donné finalement se perdre. Moi, je dis à des personnes qui ont tellement reçu de la part de Dieu et que, faute de personnes derrière à entendre ou à écouter, on a perdu. La parole de Dieu nous dit que faute de vision, le peuple se meurt. Quand vous regardez la parole de Dieu, il nous dit qu'après Josué et Caleb, le peuple s'est séparé, s'est écarté du chemin de Dieu. Parce que finalement, il n'avait pas gardé ce travail de la mémoire et de dire qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, comment Dieu a agi. Paul dira à Tite, regardez aussi Tite chapitre 1 verset 4, Tite, mon enfant légitime, en notre foi commune, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Paul à Onésime, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, Philémon, verset 10. Paul se consacrait à ce désir de communiquer quelque chose parce qu'il savait aussi que le temps qui lui était donné était court. Si on pouvait savoir combien de temps nous reste. Qui aimerait savoir? Moi, je préfère pas savoir. Parce que si je dois vivre chaque instant en me disant, allez, une seconde de moins, deux secondes de moins, trois secondes de moins, quatre secondes, je pourrais parler plus de mort que de vie. Non? Mais si le Seigneur n'en a pas permis qu'on le sache, c'est parce que notre attention, elle doit être ailleurs. En lisant les textes, la parole de Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, je n'ai pas donné la référence, et notre sœur qui a la technique m'excusera. Je vous lis juste le texte qui se trouve en Éphésiens chapitre 2, verset 1. Il dira, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tout à l'heure, je disais qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas reçu et que parfois on transmet ce qu'on devrait éviter de transmettre. Mais finalement, ce qui détermine de qui on est enfant, c'est notre témoignage. C'est notre vécu. Quelqu'un, quand ont eu l'occasion de rencontrer mon papa, ils ont dit, copie conforme, t'es le fils de ton père. À mes gamins, on dit la même chose. Hein? Ah, c'est la copie de son père. Alors, des fois, ça les énerve un peu. Je le comprends. Finalement, quelle filiation nous présentons-nous? Déjà à nos enfants. Est-ce que j'agis comme un enfant de Dieu ou est-ce que j'agis encore comme un enfant de rébellion? Est-ce que je suis resté rebelle dans l'air? Un jour, quelqu'un m'a dit « rebelle et fier de l'être ». J'ai dit « ben, ma pauvre ». Cette femme me disait « le meilleur héritage que mon père m'a donné, c'est la rage ». Elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle vivait elle-même enfermée dans 16 mètres carrés parce qu'elle avait peur des grands espaces. Elle passait sa journée à se laver continuellement parce qu'elle avait des tocs. Et le médecin lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Et j'ai commencé à lui parler de l'héritage que Dieu nous donne, qui n'est pas la rage, mais qui est l'amour, qui est la paix. Et le Seigneur a touché son cœur, le Seigneur l'a guéri. Elle est sortie de cette pièce, libérée de cette crainte. Elle a arrêté, elle a continué à se laver, mais d'une manière normale. D'une manière normale. Et elle a eu un enfant. Parce que je crois que Dieu est capable de guérir et aussi de nous libérer d'un héritage qui n'est pas bon. Mais autant qu'enfants de Dieu, puisque nous nous réclamons enfants de Dieu, est-ce que nous sommes vraiment et nous agissons comme Dieu, notre Père ? Vous imaginez si Dieu agissait comme le monde agit ? Qui en voudrait ? Moi, parfois, j'ai entendu parler de Dieu comme quelqu'un qui vindicatif, méchant, tu fais ceci, il te frappe sur la tête. Je dis non, ça, c'est pas Dieu. En tous les cas, si c'était ça, j'en veux pas, merci. La parole de Dieu me décrit Dieu comme un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de grâce, un Dieu de vérité, un Dieu de justice, certes, mais qui a aussi de l'équilibre, non ? Je ne vois pas Dieu, si Dieu devait se mettre en colère, excusez-moi, et râler pour tout ce que nous on râle, il n'y aurait plus rien. Parfois, par nos discours, on détruit tout. Et ce qu'on laisse à ceux qui nous entendent n'est certainement pas un témoignage de quelqu'un qui est en fond de Dieu, puisque nous continuons à vivre et à manifester et à parler avec colère. Que le Seigneur apaise notre cœur et que Dieu nous ramène finalement à la sagesse qui doit être la nôtre, puisque ça, c'était notre ancienne nature. La question à se poser, est-ce que cette ancienne nature, est-ce qu'elle est morte ? Et si elle est morte, qu'est-ce qu'elle fait là ? Alors, que Dieu nous aide, comme Paul, comme Pierre, comme tous les autres qui nous ont précédés, même ceux qui nous ont apportés, amenés au Seigneur. Il y a quelque temps, notre sœur Hélène nous partageait le témoignage d'un frère ancien dans l'Église, pas aîné, pas âgé, ancien. Donc, avec une attitude spirituelle, on parle de l'attitude spirituelle. Ce n'est pas l'âge qui fait de nous des anciens. Hein. Ce n'est pas l'âge. J'ai été nommé ancien, j'avais 27 ans. Alors, ou je vieillis mal, ou je vieillis trop vite. Hein? Mais la parole du Seigneur nous montre qu'il est question d'une attitude spirituelle. Et finalement, il y a un souvenir, il y a un rappel, il y a un message qui est resté. Les paroles, les partages, ils sont toujours là. Ils sont vivants, actifs dans la mémoire et ils font partie de cet accompagnement. C'est comme si les choses avaient été écrites sur notre cœur. La parole de Dieu nous dit que nous sommes la lettre de Christ, non ? Et le Seigneur écrit à fur et à mesure, mais il se sert de chacun de nous. Et je me dis, un jour, nos enfants, ils seront à notre place. Comment parleront-ils de nous ? Quels seront les propos qu'ils auront pour nous ? Est-ce que ça sera, ceux qui nous ont précédés, c'était des hommes et des femmes de foi, on les entendait prier, on les entendait chanter, louer le Seigneur. Et l'amour qui était là, et le partage qui était là, c'est ça qu'on a besoin de retrouver. Parce que vous savez, les temps qui vont suivre vont être très compliqués. Et ce que nous pouvons transmettre aujourd'hui, faisons-le avec sagesse. Pour que nous donnions le courage nécessaire à nos enfants pour ceux qui les attendent. N'oublions pas qu'un héritage comprend les actifs, mais aussi les passifs. Quand on parle d'héritage, tout le monde voit le tonton d'Amérique. Mais parfois, ça peut être le tonton qui habite dans un endroit et qui vous a laissé que des dettes. Hein ? Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était la plus grande richesse que le trésor d'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Moïse a fait un choix. Je pense que à la cour de Pharaon, rien ne devait manquer. Vous avez certainement vu ces reportages qui nous montrent le faste qu'il y avait et tout le reste. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse, lui, il a renoncé à cela parce que c'était la jouissance éphémère. Mais finalement, ses yeux se sont portés plus loin vers la récompense. Est-ce que nous aussi, nous regardons à la récompense ? Et finalement, quelle est la nature de l'héritage que nous avons reçu ? Je me dis, et je me surprends à le dire, que parfois, en tant que chrétien, nous ne sommes même pas conscients de l'héritage que nous avons reçu. Parce que si on en était conscient, on prendrait beaucoup plus soin. On aurait beaucoup plus de respect pour ce qui a été fait, pour la manière où ça a été fait. Alors certes, tout n'est pas parfait. Hein. Si quelqu'un est parfait, lève la main. Non ? Bon, ok. Ça s'est réglé. Mais dans la parole du Seigneur, on voit qu'il y a un testament intemporel. Et c'est ça que j'aimerais encore vous partager. 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14. Regardez ce texte. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeune enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeune gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » C'est parce qu'ils ont vu le Père, parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont figé leur cœur et leur vie en Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas conscients de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, nous ne pourrions pas transmettre quoi que ce soit aux générations qui viennent. Quand Dieu parle, il ne néglige personne. Dieu ne met pas un homme au-dessus des autres hommes. Celui qui est au-dessus de nous tous, c'est Jésus-Christ. Celui que Dieu a choisi pour qu'il soit celui qui dirige nos vies, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une culture. Ce n'est pas non plus une mode, c'est Jésus-Christ, sa parole, son esprit, de A à Z. N'est-ce pas ? Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il est question de personnes adoptées. Alors, je me suis surpris cette semaine parce que les informations, elles me revenaient d'un coin à l'autre et quelqu'un donnait cette explication du mot « adopté ». Quelle est pour vous l'explication du mot adopté ? Dites-moi, s'il vous plaît. Choisir quelqu'un et le reconnaître comme son enfant. OK. Quoi encore ? C'est quoi adopter ? Lui donner la même part que son fils. Très bien. C'est quoi encore adopter ? Alors j'ai trouvé cette phrase qui m'a interpellé. C'est choisir d'aimer. Je me suis dit, waouh, je ne l'avais jamais vu comme ça. Choisir d'aimer. Choisir d'aimer quelqu'un et le considérer comme son propre fils. Ne pas faire de différence, ce n'est pas une question d'avoir transmis ses gènes. Non, non, non. C'est d'avoir transmis son amour. Adopter, dans la parole de Dieu, les différentes traductions donnent pris en main. Dépendent d'un autre qui suit, un pupille ou un élève, adopté par le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que nous avons été adoptés à cause de qui ? Pourquoi Dieu nous a adoptés ? Parce qu'il était en manque familial ? Pour les allocations, tiens. Hein ? C'est pas mal si tu te présentes avec, je ne sais pas, 2-3 millions d'enfants, ça fait pas mal au niveau des allocations familiales. Hein ? Pourquoi Dieu nous a choisi de nous adopter? Et en me connaissant, il fallait beaucoup d'amour. Et encore. Et encore. Et la parole de Dieu nous engage, frères et sœurs, à être des héritiers à part entière. Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à souffrir avec le Seigneur? Est-ce que, à votre avis, Jésus a été un fils digne jusqu'au bout? Est-ce qu'il aurait pu faire autrement? S'il avait voulu. Un jour, j'étais à une rencontre de jeunesse et des jeunes avaient mimé la crucifixion de Christ. Ils avaient fait des mimes et à un moment, dans ces mimes, ils montraient les anges voir Jésus être cloué à la croix et leur désir d'intervenir. Mais ils ne pouvaient pas tant que le Fils n'avait pas donné l'ordre. Et lui, il ne l'a pas donné. Nous, parfois, on voudrait que Dieu fasse descendre tous les anges du ciel pour qu'on ait raison et qu'il règle nos comptes. Et là, je me dis, ben non, je ne suis pas un fils digne quand je pense comme ça. Vous vous rappelez ces deux jeunes personnes, ces serviteurs, ces disciples qui diront au Seigneur, « Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel ?» Hein ? Les fils du tonnerre. Et le Seigneur, il les reprend. Il dit, « Je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver. » Est-ce que vous pensez que par leurs paroles, là, Jésus pouvait se dire, « Ce sont mes frères ?» Pourquoi il les reprend? Regardez la manière où il reprend même Pierre, quand Pierre parle d'une manière un peu... Il dit, oh, autant il pouvait être celui sous l'aspiration de Dieu, autant il lui dit, va en arrière, Satan. Waouh! C'est terrible, non, cette parole? Vous imaginez quelqu'un te dit, va rétro, Satanas? Dis, attends, il m'a bien accueilli le pasteur ce matin, hein? Mais ce n'est pas toi, c'est celui qui finalement a pris une certaine influence dans ta vie et que tu écoutes de trop. Alors la volonté de Dieu, c'est finalement que nous puissions, chacun d'entre nous, dire « Seigneur, viens à notre secours, viens nous aider ». Alors quel est l'héritage que Dieu nous donne? C'est un héritage pur et glorieux. 1 Pierre chapitre 1, verset 3-5, c'est la dernière référence, qui dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance, amen, pour un héritage qui ne peut ne s'y corrompre, ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Est-ce que je peux vous donner une image de ce texte? Dieu nous a donné une espérance vivante, sachant bien vivre. Pour un héritage qui ne peut pas se corrompre, ça veut dire qu'il ne peut pas se mélanger aux héritages charnels, matériels de ce monde. Ni se souiller, il doit se garder pur, ni se flétrir, il ne va pas perdre de jeunesse ou de vigueur, pas du tout. Et qui nous est certes réservé dans les cieux. Alors on dit un jour, j'aurai un grand héritage. Hein? Mais cet héritage, tu l'as déjà ici. Mais il est question qu'à un moment, on te reconnaisse autant qu'enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit, et c'est le Seigneur qui nous enseigne, qu'il y aura un jour où nous serons devant la présence de Dieu Et Dieu séparera les brebis. Voyez où je veux en venir ? Sommes-nous brebis ou boucs ? Moi, je n'ai jamais vu une chèvre donner naissance à une brebis. Et ni une brebis donner naissance à une chèvre, on est d'accord. Autrement, on devient chèvre. La brebis, c'est celle que le Seigneur a utilisée et comme une image, mais aussi ce qui représente le mieux le caractère, l'agneau de Dieu, sans tache, pur, qui s'est donné, qui a donné sa vie, c'est une image. Mais ça nous transmet aussi tout un message qui doit être le nôtre. Seigneur, est-ce que j'agis comme une brebis ou comme un bouc ? La brebis baisse la tête et mange ce qui est devant elle. Elle suit le berger, c'est le berger qui la conduit, hein, là où il y a des verts pâturages. Vous avez déjà vu des boucs ? Si vous n'en avez pas vu, alors je vous invite, vous faites une petite promenade, vous allez vers Saint-Gilles, mais vous passez par la route arrière. Et il y a un moment, vous arrivez sous un pont et il y a plein de chèvres et de petits boucs qui arrivent. Et si vous arrivez le soir, vous voyez des petits yeux rouges. Et vous dites, je suis où ? C'est quoi cette histoire ? Et vous les voyez sauter dans tous les sens, ils font ce qu'ils veulent. Et parfois, nous, comme chrétiens, on dit, je fais ce que je veux, quand je veux, si je veux, où je veux. Et alors, je dis, attention, parce que le jour où Dieu va séparer les brebis des boucs, tu ne vas pas où tu veux, tu ne fais pas ce que tu veux, tu vas là où on te dit d'aller. Parce qu'il y a une grande différence entre la brebis et le bouc. Et il y en a certains qui s'habillent en brebis. Hein ? Sauf que vous pouvez prendre un bouc, le couvrir avec une peau de brebis, il sentira toujours le bouc. Et je termine par ça, parce que peut-être certains ne le savent pas. Le bouc a tendance à aimer les pousses des arbres. Il les mange et sa salive, finalement, tue l'arbre. Regardez quel témoignage du passage. J'étais un arbre en vie, le bouc est passé, je suis mort. Je crois qu'il est important pour nous de choisir dès aujourd'hui quel est l'héritage qu'on veut laisser à nos enfants. Moi, je prie qu'un jour, les enfants que nous voyons courir parmi nous se rappelleront de nous. Mais dans le bon sens, hein. Parce que vous savez, les enfants, ils disent la vérité, hein. Des fois, vous êtes étonnés d'entendre ce que j'entends, hein. Papa était méchant. Ah bon, pourquoi ? Oui, parce qu'il m'a dit ceci. Et qu'est-ce que tu as fait ? Je ne vais pas plus loin. Les enfants, ils sont clairs, ils viennent, ils me racontent, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi, j'ai dit toujours, les enfants, c'est le miroir de la famille. Mais j'aimerais terminer par l'histoire du petit Mathieu. Mathieu, c'est un enfant qui a 11 ans et qui vit avec sa maman. Et sa maman est divorcée et sa maman, elle est en profonde dépression. Et quelqu'un me donne son adresse, il me demande si je peux aller la voir et donc on va lui rendre visite. Et on trouve cette femme habillée dans les mêmes habits depuis 15 jours. Pas soignée, en souffrance, en profonde souffrance. Et je vois ce petit gamin qui, comme sa maman, est dans son pyjama et qui s'est nourri de ce qu'il a trouvé dans les placards et qui hurle « Je veux mourir. Je veux mourir. » Et cet enfant, moi, me prend aux tripes. Alors certes, on prie avec la maman et après j'essaie d'avoir un dialogue avec Mathieu. Et Mathieu, est-ce que tu veux que... Non, je veux mourir. Et je dis, Seigneur, il faut que toi tu fasses quelque chose. Je lui dis, tu veux pas que je prie pour toi, tu veux pas qu'on prie ensemble, mais je vais prier pour toi quand même. Et on prie pour la maman et on prie pour l'enfant et on revient 2 jours plus tard pour voir comment ça va. Et la maman, elle a pris une douche, elle s'est lavée, elle est toute propre. Elle recommence tout doucement à sortir de sa souffrance. Et l'enfant, il est toujours au coin dans cette pièce et toujours dans son pyjama. Il n'avait pas voulu se laver, il n'avait rien voulu. Et se nourrissait d'un truc dont la couleur elle n'était pas certaine. Et je lui dis, Mathieu, tu veux que je te ramène quelque chose à manger de bon? Est-ce que ça te dit? T'as envie? Non, je veux mourir. Et je demande à l'église de prier. Parce que je me dis tout seul, je ne peux pas y arriver, Seigneur, il faut que tu interviennes. Et le jour d'après, je reviens, je ramène des trucs pour la maman, pour l'enfant, pour qu'il puisse se nourrir. Et on laisse 2-3 jours et l'église, elle prie. L'église, elle jeûne. Et on vient faire visite. Et à la dernière visite, Mathieu était lavé, était propre, reprenait des bonnes couleurs. Et donc, je voulais le laisser venir tranquillement. Et à un moment, il me dit, est-ce que je peux te dire quelque chose? Je dis, mais bien sûr. Il dit, est-ce que je peux t'appeler tonton? Je dis, Mathieu, moi, je serais le plus heureux au monde si tu m'appelles tonton. Je dis, alors, je te fais une bise. Tu me fais une bise. Parce qu'un tonton fait une bise à son neveu, hein? D'accord, ok. Et à partir de là, on a pu prier avec Mathieu. Et Mathieu, quand il arrivait à l'église, peu importe si le culte était commencé, il courait, tonton, il sautait dans les bras, bisous, et je reprenais les chants après. C'est pas grave. Mais on a vu la manière où Dieu a touché la maman et l'enfant. Et ce que la maman vivait, malheureusement, l'enfant, il l'avait absorbé comme une éponge. Alors que Dieu nous donne de transmettre de bonnes choses. Amen. Parce qu'au même temps, la maman, elle est sortie de ça, mais l'enfant aussi. Amen. Alors, je vous encourage vraiment, dans l'amour du Seigneur, posez-vous les bonnes questions. J'écris juste une phrase, révéler qui nous sommes avant tout à l'intérieur de l'Église, sans négliger l'extérieur. Je l'écris, je l'ai dit. Notre témoignage à l'intérieur, notre témoignage à l'extérieur. On va incliner nos têtes. Seigneur, ta parole nous instruit d'une manière qui nous dépasse, Seigneur, et tu as touché à tous les sujets qui, finalement, font partie de la vie des hommes et des femmes que nous sommes. Seigneur, si même nous n'avons pas un héritage matériel, économique, Seigneur, si même nous n'avons pas ici-bas, entre guillemets, fait fortune, la chose la plus grande que nous avons reçue, le trésor le plus grand, Seigneur, que nous avons, c'est toi. Seigneur, et je ne veux pas partir d'ici-bas sans avoir transmis, Seigneur, ce que tu m'as accordé dans ta grâce et dans ta miséricorde, ou en tous les cas, encourager à découvrir. Seigneur, je ne peux pas laisser le salut en héritage, Seigneur, mais je peux laisser un témoignage qui donne envie d'être sauvé. Seigneur, je ne peux pas moi-même convertir qui que ce soit, mais Seigneur, par la manière d'agir, Seigneur, je peux donner, Seigneur, au moins, Seigneur, envie à quelqu'un de s'approcher de toi et de te chercher. Alors, Seigneur, je te prie pour chacun de nous, donne-nous de transmettre un bon héritage. Donne-nous de prendre soin les uns des autres et de négliger aucun, Seigneur, de ceux que tu as mis autour de nous, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, Seigneur. Nous te prions particulièrement, Seigneur, et je te prie particulièrement pour les enfants, pour nos ados, pour la jeunesse, Seigneur, qu'ils puissent le plus rapidement possible rentrer, Seigneur, dans cet héritage. Que rien ne les écarte. Seigneur, je te prie aussi pour les enfants à venir. Seigneur, je te prie pour ceux qui désirent aussi avoir des enfants. Seigneur, que ce soit dans le cadre du couple, mais aussi spirituel. Seigneur, me montre une personne ce matin, ça fait un moment, vous priez pour ce sujet. Et je voudrais vous dire que le Seigneur a entendu votre prière. Seigneur agira au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Il aura toujours le dernier mot. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. À toi honneur et gloire. Amen.